C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un système qui craque comme les sols qui l'a appauvri. En quelques décennies, le monde agricole est passé de la ferme à la firme. Ancestral par son rythme, mais lancé à pleine vitesse dans le capitalisme financier, la tyrannie des cours mondiaux, les investissements démesurés, sommés de produire toujours plus et toujours plus vite, puis accusés d'empoisonner la population, les agriculteurs européens sont en colère. Ils dépendent de la PAC, la politique agricole commune, qui non seulement les asphyxie, mais qui étouffe aussi leur collègues des pays du Sud. Car les surplus européens inondent à bas coût les marchés africains et détournent les clients des productions locales. Nous allons vous expliquer ces mécanismes. L'agrobusiness détruit nos paysans et notre environnement et nous, on laisse faire. Encore combien de temps ?
C'est pas du vent. Sur RFI.
Ils ont à nouveau sorti leurs tracteurs et leurs banderoles, hashtag sauve ton paysan et Macron réponds-nous devant les préfectures de France, ras-le-bol du agribashing, la déconsidération du monde agricole et de ses pratiques. À Strasbourg, c'est une agro-parade qui a défilé cette semaine en direction du Parlement européen à l'appel du collectif pour une autre PAC qui fédère une quarantaine d'associations et de syndicats impliqués dans les questions agricoles et alimentaires. Bonjour Nicolas Giraud.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole français de la Confédération paysanne. Vous vous êtes joint à ce cortège à Strasbourg pour interpeller les parlementaires européens. Avec quelles revendications ?
Eh bien, tout simplement, déjà avec une revendication pour une autre PAC. C'est-à-dire qu'on était là pour réaffirmer le besoin d'une politique agricole commune, d'ailleurs d'une politique agricole et alimentaire commune, et qu'elle soit ambitieuse et forte pour redonner du sens à nous, notre métier de paysan, et puis reconnecter les besoins alimentaires aux travaux des paysans. Et comment est-ce que les paysans travaillent, se nourrissent et vivent en faisant une agriculture relocalisée, de qualité, et qui permette de retrouver du sens et de la légitimité pour un maximum de citoyens.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on sent que la colère monte hein, dans de nombreux pays européens. Le système serait-il à bout de souffle ?
Ben nous, très clairement, hein, ça fait des années qu'on le dit, la politique agricole commune, comme elle a été menée, ou plutôt comme elle a continué, elle a emmené les paysans dans le mur. La PAC, c'est un plan de licenciement démentiel de l'agriculture, c'est des crises de surproduction qui se répètent, c'est plus d'un paysan par jour en France qui se suicide, c'est une production qui s'industrialise, donc oui, la PAC, elle est au bout d'un truc, et il faut absolument la changer, elle est plus légitime, elle a perdu de son sens, elle ne rémunère plus les paysans, et elle ne fournit plus en qualité la demande alimentaire française et européenne. Donc clairement, pour nous, il faut en changer, et on est dans le tempo pour arriver à le faire. C'est pourquoi on était mobilisés ce mardi à Strasbourg.
Alors pourquoi est-ce que vous vous mobilisez maintenant, justement ? C'est quoi l'agenda ?
Ben, l'agenda, alors je vais dire, il est encore un petit peu flou, l'agenda, parce que avec l'arrivée des nouveaux eurodéputés, il y a plusieurs possibilités. Soit le projet de PAC qui avait été mis sur la table par l'ancienne commission est repris et il est amendé et retravaillé, soit il peut encore être complètement bouleversé et repartir d'une page blanche. Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas exactement. En tout cas, l'agenda, c'est dans les semaines à venir, c'est la validation par les eurodéputés des différents commissaires européens. Le commissaire européen à l'agriculture sera un Polonais. Celui qui est proposé, c'est Janusz Wojciechowski.
C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle, ça ?
C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour avoir une PAC qui soit réellement commune et qui reste une politique intégrée européenne. C'est quelqu'un qui est plutôt proche des partis nationalistes et qui verrait d'un bon œil une renationalisation de la PAC. Et pour nous, c'est pas une bonne nouvelle. Si on a une Europe, c'est pour construire ensemble. Et au niveau agricole, la PAC s'est construite ensemble. Elle n'est pas forcément allée dans le bon sens, elle est sûrement allée beaucoup trop loin. Mais en tout cas, il faut la reconstruire, mais la reconstruire ensemble autour des objectifs d'emploi paysan, autour des objectifs de dynamique territoriale et d'alimentation de qualité.
Donc là, c'est le début de la mobilisation, ça va durer des mois ?
Ben clairement, oui, c'est le début de la mobilisation. Là, les discussions commencent avec les eurodéputés. Eux-mêmes travaillent avec leurs partenaires européens. On a dans le même temps des enjeux nationaux, c'est-à-dire que les plans stratégiques nationaux commencent à s'écrire également, alors que c'est un petit peu ambigu, on ne sait pas exactement la tournure qu'aura la prochaine réforme de la PAC, et on commence déjà à écrire les plans nationaux, donc ça pose aussi un petit peu question, tout se bouscule, mais en tout cas, voilà, nous on sera mobilisés dans les mois qui viennent, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, pour arriver à faire passer nos messages que demain, si on veut répondre aux défis climatiques, aux défis environnementaux et aux défis alimentaires, il faudra plus de paysannes et de paysans et que ce n'est pas avec moins qu'on arrivera à le faire.
Merci Nicolas Giraud. Je rappelle que vous êtes le porte-parole français de la Confédération paysanne. En France, il ne reste plus que 450 000 exploitations agricoles pour nourrir 67 millions d'habitants. Le métier n'attire plus les jeunes car les agriculteurs souffrent, comme en témoigne le film Au nom de la terre qui remporte un franc succès depuis sa sortie sur les écrans français. Extrait.
Il n'y a plus de trésorerie là. On est à sec.
C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien là votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père il se la pète, hein.
Pareil que t'es dans la merde.
Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système.
T'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde.
Quand reviendras-tu? J'ai rencontré Guillaume Canet, acteur principal, et le réalisateur Édouard Bergeon quand ils sont venus présenter leur film en avant-première à Lyon, dans le sud-est de la France.
J'ai réalisé ce film parce que déjà c'est un hommage à mon père, mais c'est un hommage aussi à tous les agriculteurs qui sont partis, qui ont mis fin à leur jour, et à tous ceux qui se battent pour tenir le coup parce que c'est très tendu en ce moment. Il y a un tiers des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois. Les outils qu'ils ont repris à leur père ou à leur grand-père aujourd'hui ont grossi et ils sont très 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 fragiles puisqu'ils produisent, ils travaillent 15 heures par jour, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Et à la fin du mois, c'est pas eux qui font la facture de ce qu'ils vendent. Ils sont tributaires d'une économie de marché mondialisée qui impose des prix dans leur ferme, en fait. Donc c'est compliqué de se donner à fond et de ne pas pouvoir savoir ce que vous allez gagner, ou même vous pouvez perdre de l'argent en agriculture. On a le droit de produire à perte, c'est quand même assez dingue. Donc moi, je raconte ce film sur 3 générations. Les générations de mon grand-père, les 30 Glorieuses, où il a gagné de l'argent en travaillant. Il a créé un outil, a capitalisé. Mon père a repris donc au tournant des années 80. 90, c'est l'ouverture, le libre-échange, l'économie de marché justement qui régit tout ce marché, la bourse de Chicago. Et voilà, il y a un consommateur qui ne veut plus payer ce qu'il mange. Donc on s'est diversifié chez nous, on a grandi pour trouver des nouveaux revenus, pas par mégalomanie, mais pour trouver des solutions et puis des débouchés qui auraient pu nous faire vivre. Mais malgré le fait qu'on grandisse, en fait, on n'a jamais gagné d'argent et on a même perdu. Donc des dettes et puis de la fatigue physique, morale, jusqu'à une grosse dépression pour mon père. Ouais.
Une grosse dépression qui s'est terminée par un suicide. En France, il y a un suicide d'agriculteur chaque jour. Votre père, son histoire finalement, c'est celle de beaucoup d'agriculteurs. C'est l'intérêt de ce film. Votre père qui est joué par vous, Guillaume Canet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à la campagne, hein, vous avez grandi avec votre père éleveur de chevaux, mais est-ce que vous connaissiez cette réalité de l'agriculture française ?
Je connaissais bien le milieu rural, le milieu agricole, mais non, je connaissais pas aussi bien le problème et la complexité que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui, et d'ailleurs ces dernières années aussi. J'ai découvert certaines choses au contact de ces agriculteurs aussi pendant le tournage. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé pendant le tournage que ça pouvait pas rester qu'un seul film, qu'il fallait que ça aille plus loin, que j'ai voulu m'engager dans cette association Solidarité Paysan avec toutes les opérations qui s'en sont suivies et ce qu'on est en train de mettre encore en place. Mais oui, j'ai découvert plein de choses, et puis j'ai découvert aussi que au-delà de l'histoire très très forte que raconte Édouard et son histoire humaine, hein, parce que là on parle de chiffres et on parle de techniques d'agriculture, mais c'est aussi une histoire d'abord aussi humaine, très très forte, de ce qu'a traversé son père, sa famille. Et donc au-delà de cette histoire très forte qui m'a beaucoup, enfin qui m'a vraiment bouleversé, s'en est aussi détaché aussi d'autres sujets que j'ai découverts au fur et à mesure, que je connaissais parce que j'ai une conscience environnementale, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on tape beaucoup en fait sur les agriculteurs. Mais c'est vrai que tout d'un coup, ces agriculteurs à qui on a dit pendant des années « il faut produire, il faut faire du rendement », aujourd'hui, on les traite d'empoisonneurs, alors que c'est les premiers empoisonnés. Moi, je dis ça, je favorise pas du tout l'agriculture conventionnelle, hein, mais bien au contraire. Mais en tout cas, la force du film, c'est qu'il n'oppose pas les agricultures. Et c'est pas le sujet réellement du film, en fait. Par contre, il parle d'un sujet qui est important, c'est comment les agriculteurs aujourd'hui n'arrivent pas à faire de la qualité et ne peuvent pas faire de la qualité. C'est-à-dire que même s'ils veulent le faire, ils ne peuvent pas en faire puisqu'ils sont obligés de la payer de leur poche, cette qualité, parce qu'ils ne sont pas rémunérés pour ce travail-là. Donc ils sont pieds et poings liés avec ces industriels, avec ces grands groupes agroalimentaires, et ils continuent à faire cette agriculture-là parce qu'ils n'en ont pas le choix, en fait. Alors il y en a peut-être que ça leur va très bien, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui aimeraient passer en bio, qui ne peuvent pas le faire parce que les aides sont bloquées depuis 3 ans. Alors maintenant, ça commence à se débloquer, heureusement, mais ça prend du temps, c'est compliqué. Et ça prend au moins 5 ans pour qu'une exploitation puisse devenir vertueuse. Donc c'est vraiment tous ces sujets-là sont apparus comme la nécessité aussi que les consommateurs eux-mêmes, nous-mêmes, parce que je m'inclus aussi dedans évidemment, nous soyons beaucoup plus responsables à ce qu'on met dans notre assiette. Parce que notre assiette, elle est remplie par les agriculteurs.
Oui, parce que finalement, ce que nous achetons décide aussi de ce qui est produit. C'est-à-dire, si on refuse d'acheter certains produits, ils ne seront plus vendus, donc ils ne seront plus fabriqués. C'est une chaîne.
Exactement. Après, ce n'est pas évident de pouvoir manger bio ou proprement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat et qui n'ont pas la possibilité d'acheter certains produits de qualité. Mais maintenant, il y a aussi des solutions pour, sans acheter des produits qui coûte très très cher, de favoriser les circuits courts, d'aller chez les agriculteurs. Il y a des paniers maintenant que vous pouvez vous faire livrer même en ville, d'agriculteurs qui livrent leurs paniers de légumes de très bonne qualité et à prix faible. Donc on est responsable, nous aussi, en tant que consommateurs, à faire bouger cette chose-là.
Dans votre film, Edouard, il n'y a pas du tout la dimension dont parlait Guillaume, c'est-à-dire agriculture biologique. On voit l'utilisation des pesticides, mais ce n'était pas une préoccupation dans les années 90. En tout cas, vous n'en parlez pas du tout dans le film.
Ah ben, moi, je raconte l'agriculture que mon grand-père a faite et celle que mon père a faite et celle qu'ils ont appris. Donc, l'agriculture conventionnelle.
C'était les pesticides, c'était les produits phytosanitaires.
C'est la même chose, mais c'est plus joli de dire produits phytosanitaires.
C'est des produits phytosanitaires, donc ça paraissait moins grave. Donc les enfants pouvaient passer sous la rampe, on pouvait ouvrir la cuve sans se protéger. Et c'est bien des années plus tard que tout le monde s'est rendu compte que c'était vraiment réellement dangereux.
On appelle ça même aujourd'hui des produits phytopharmaceutiques. Tout le lobby de la chimie parle de médicaments des plantes. Donc ça ne peut pas être dangereux puisque ça vous soigne, ça assure la sécurité alimentaire du monde, selon eux. Hein. Donc il y a un super territoire à conquérir, là il y a l'Afrique, Syngenta, Cargill, ils ont un terrain de jeu qui est fabuleux. Mais moi je montre tous les ravages de tout ce système dans mon film en fait. Je ne juge pas, je n'incrimine pas telle ou telle industrie ou syndicat, mais je raconte comment on a appris à nos agriculteurs à travailler et aujourd'hui on en paie les pots cassés parce que les agriculteurs, comme le disait Guillaume, ce sont eux les premiers qui sont aujourd'hui, qui ont des lymphomes, qui ont des Parkinson et qui meurent de toute cette chimie. Et puis les sols perdent justement la vie, donc parce que herbicides, fongicides, ça veut dire tuer le vivant. Hein. Et toutes ces firmes-là, elles ont supprimé 3/4 des variétés depuis quelques années. Et puis il y a un brevetage du vivant où il faut que vous rachetiez chaque année ces semences enrobées qu'on voit dans le film ou ces produits qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire des denrées agricoles. Non, on peut produire différemment, avec un système beaucoup plus vertueux, mais il faut aider politiquement les agriculteurs et puis il faut que le consommateur aide politiquement avec un grand P, c'est-à-dire de manière citoyenne. Il y a une fracture alimentaire en fait aujourd'hui. Donc certains n'ont pas les moyens, ça c'est vrai, d'acheter, mais aussi on a perdu peut-être la culture de s'approvisionner, du marché, de cuisiner. Et c'est en ça qu'une éducation civique autour de l'assiette et de la vie et du vivant est nécessaire en tout cas pour assurer la santé de nos nouvelles générations. Mais
c'est-à-dire que puisque ça existe, l'agriculture vertueuse, puisque ça existait avant, ça veut dire qu'on peut le faire. Ça veut dire
70 ans qu'on met de la chimie. Hein,
ça veut dire qu'on sait le faire. Donc le discours de dire on ne peut pas faire sans,
obsolète.
C'est obsolète.
Au nom de la Terre d'Edouard Bergeon est à voir dans les salles de cinéma françaises et j'espère bientôt francophones. Ce malaise des agriculteurs, des Français est le résultat d'un système économique conditionné par la politique agricole commune. Un système qui a aussi de nombreuses répercussions pour les paysans du continent africain. On en parle juste après une pause en compagnie de Tom, Valentin et Jonathan, trois jeunes Français du groupe Isleté Une Fois qui font un carton en ce moment sur YouTube avec leur vidéo Dommage, une reprise de la musique de Big Flo et Oli avec des paroles en hommage aux agriculteurs.
Michael se lève comme tous les matins avec la même angoisse de travailler pour rien, pouvoir gagner sa vie et il espère un jour agriculteur, un métier reconnu de tous. Le jour à peine levé, il commence à bosser, malgré la peur et le poids des soucis accumulés. À d'avenir compliqué, des gens pas défendus, mais lui tout ce qu'il veut c'est un jour être entendu. Ah, il aurait dû faire banquier, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Son fils choisit sa voie, il veut faire comme papa. Tarot ses vaches et terre, y'a rien de qu'il préfère. Pour lui il s'épanouit, mais Léa a encore baissé. Donc son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois il s'imagine devenir un grand producteur. Payer 5 euros de l'heure, ce serait le bonheur. Mika est fatigué, coincé dans la routine. Ça lui arrive parfois de penser au suicide. Ah, il aurait dû faire banquier, ah, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Ah, il aurait dû faire banquier, ah, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Mon fils voudrait l'aider, mais par où commencer? Il a eu une idée, pourquoi pas manifester? Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Une a vêlé, il doit veiller sur elle toute la nuit. Michael est triste de devoir travailler ainsi. Il déprime de ne pas gagner d'argent sur ses produits. Mais mon pauvre Mika, tu as peut-être oublié qu'on est 60 millions à être de ton côté. Ah, on aurait dû leur dire, on aurait dû leur dire, crois-moi. On a tous dit c'est dégueulasse qu'ils soient dans la merde comme ça. C'est un métier génial, c'est quand même pas normal de gagner si peu, alors pour nous ce sont des dieux. Pourtant c'est du loco et eux sont motivés, pourquoi on leur donne pas la chance d'y arriver? Il faut bien repenser à tout ce que l'État promet, mieux les rémunérer pour qu'ils arrêtent de les faire chier. Ils préfèrent oublier avec indifférence qu'un agriculteur meurt tous les deux jours en France. Ah, ils auraient dû y penser, ils auraient dû penser, crois-moi. On a tous dit assez dommage qu'ils en arrivent là. On a tous dit assez dommage, 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 assez dommage.
Travailler jusqu'à la mort sans être payé, ne veulent pas toucher l'or mais seulement du respect. Travailler jusqu'à la mort sans être payé, ne veulent pas toucher l'or mais seulement du respect.
Le groupe Isleté Une Fois, Dommage dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ceux qui ont compris avec le bio, on atteint son apogée et tout. Et vous voyez comment je suis, non? Voilà, j'ai la belle, la pleine forme et tout. Donc, je suis mignon, non? Vous me trouvez pas mignon?
Si, si, allez.
Super, voilà. Donc, c'est ça, et c'est ça. Et c'est le bio qui est bon.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Bonjour Laurent Levard.
Bonjour.
Vous êtes expert en agriculture au GRET et membre de Coordination Sud qui rassemble plus de 170 ONG françaises de solidarité internationale. Et vous venez de publier, vous êtes co-auteur, une étude intitulée « PAC, quelle cohérence avec le développement des pays du Sud ?» Alors nous allons voir qu'il n'y en a pas beaucoup de la cohérence, mais est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer comment la politique agricole commune aide les agriculteurs européens financièrement ? Comment ça fonctionne cette histoire ?
Fondamentalement, aujourd'hui, la politique agricole commune, elle repose sur ce qu'on appelle deux piliers, c'est-à-dire que le pilier principal, puisque c'est tout de même 85% du budget européen, c'est des aides qui sont versées aux agriculteurs, donc des aides directes. Techniquement, on appelle ça des aides découplées, c'est-à-dire c'est des aides aveugles, c'est-à-dire que quel que soit ce que font les agriculteurs sur leur terre, ils reçoivent des aides en fonction de la surface, donc c'est pas plafonné. Peu importe le produit. Je dis que c'est aveugle parce que ça ne permet pas du tout d'orienter la production, les méthodes de production en fonction de ce qui serait de l'intérêt général de la société, de l'humanité. Et donc ce système d'aide découplée mène en fait à des systèmes très productivistes, à des systèmes où les régions où il y a un avantage comparatif pour les céréales, elles se spécialisent dans les céréales, d'autres régions se spécialisent dans l'élevage. Donc tout ce qu'il y avait comme intégration entre agriculture et élevage historiquement disparaît, et tout ça est la cause d'une contribution extrêmement forte de l'agriculture européenne au changement climatique. Aujourd'hui, l'ensemble du système agricole et alimentaire européen, il est responsable entre 25% et un tiers des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc c'est tout à fait considérable, et on trouve notamment comme facteur déterminant de cette contribution de l'agriculture au changement climatique, le fait qu'on fasse tout ce qui est lié autour de la fertilisation azotée, qu'on applique sur les céréales, parce qu'il n'y a plus d'élevage à côté pour utiliser le fumier et donc pour intégrer agriculture et élevage. Et puis d'autre part, il y a toutes les émissions liées au système d'élevage intensif, les ruminants eux-mêmes qui émettent du méthane, ces animaux qui sont nourris par du soja qui vient d'Amérique du Sud, où la culture de soja en Amérique du Sud est elle-même responsable en grande partie de la déforestation dans cette partie du monde, et donc là aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, une responsabilité centrale de cette politique par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre, ce réchauffement climatique, et sachant que les paysanneries des pays en développement sont tout de même les premières victimes de ce réchauffement climatique.
Et alors la logique de la politique agricole commune, c'est plus on est gros, plus on a de rendement, plus on touche d'argent.
Oui, aujourd'hui, plus on est grand, plus on touche d'argent. Et en plus, les aides à l'hectare, elles sont fonction des rendements historiques de chaque région. Donc dans les régions les plus riches, effectivement, il y a des aides qui sont plus importantes que dans les régions les moins riches.
Alors donc ça va de quoi ? 200
à... Oui, 200, 400 euros à l'hectare, oui.
Voilà. Donc, oui. Et ça, en fait, ce système-là, il est extrêmement pervers, parce que comme vous l'expliquez dans votre étude, la politique agricole commune, en fait, notamment dans les pays africains, freine le développement des filières de commercialisation des produits locaux. Alors expliquez-nous le lien, expliquez-nous pourquoi.
Alors tout d'abord, cette concurrence, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle exporte sur les marchés des pays en développement des produits agricoles et alimentaires à un prix bien inférieur au prix de produits équivalents sur les marchés locaux. C'est le cas des céréales en Afrique de l'Ouest, c'est le cas du lait en Afrique de l'Ouest.
Et c'est parce que justement, comme les agriculteurs ont des aides, ceux qui leur achètent leur disent coup, on peut vous acheter moins cher vos produits.
Alors, quel est le phénomène ? Le phénomène, il est. Et en quoi c'est lié à la politique agricole commune ? Tout d'abord, la politique agricole commune, elle avait auparavant des mécanismes de maîtrise des productions, de limitation des productions, ce n'est plus le cas. Donc, il y a des excédents, et ces excédents, il faut s'en débarrasser sur le marché mondial. Et d'autre part, il y a ce système d'aide aux agriculteurs. Le problème de ce système d'aide aux agriculteurs, c'est que finalement, l'aval des filières, les industriels, les commerçants, ils ne sont pas stupides. Ils savent bien que les agriculteurs bénéficient de ces aides. Et ça leur permet finalement de payer moins cher les agriculteurs. Et en payant moins cher les agriculteurs, eh bien les produits qu'ils produisent pour exporter sur les marchés des pays en développement, ils peuvent les vendre moins cher. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le fait que les agriculteurs puissent bénéficier d'un soutien public, de subventions. Mais là, il y a un véritable effet pervers que finalement, ceux qui y gagnent là-dessus, ce sont les industriels, et ça sert à faire du dumping sur le marché mondial. Voilà.
Et on arrive à des situations surprenantes, comme celle dénoncée en ce moment par la campagne « N'exportons pas nos problèmes » portée par SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, la European Milk Board et Mon Lait et Local, qui souhaitent sensibiliser les citoyens justement aux enjeux autour de la filière laitière.
Quelle est la différence entre ces deux verres de lait ? Identique, pas si sûr. Le premier contient du lait frais, produit par une éleveuse du Sénégal et ses vaches. Le deuxième est en réalité du lait en poudre, produit en Europe, engraissé à l'huile de palme et revendu au Sénégal, 30% moins cher que le premier. Comment en est-on arrivé à cette absurdité ?
Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer maintenant. L'Union européenne figure parmi les principaux producteurs mondiaux de lait, au deuxième rang après l'Inde. Et depuis 2015, la production a fortement augmenté avec la fin des quotas laitiers. Et nous sommes en ligne avec Indatou Amadou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable plaidoyer à l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, l'APES, et vous êtes à Ouagadougou, mais vous êtes la coordinatrice régionale de la campagne lait sur 6 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad, des pays où la consommation de lait est traditionnelle. Sous quelle forme principalement ?
Elle est sous la forme liquide, le lait naturel, mais également sous la forme de préparation de boissons telles que le gapal, qui est fait avec le petit mil, mais également le dégué, bien connu au Burkina par exemple, qui est fait à base du petit mil aussi, très bien apprécié.
Alors quel est l'objectif de cette campagne ?
Cette campagne, elle vise à promouvoir et à défendre le lait local, en ce sens que depuis plusieurs années, ce qu'on voit sur le marché africain, c'est qu'on assiste à une concurrence des poudres de lait sur le marché laitier. Donc, on voit que la production locale au niveau de nos territoires est étouffée par de la poudre de lait qui inonde tous les pays. Donc, il faudra soutenir cette production locale.
Alors, une poudre de lait engraissée, comme on entendait dans la campagne là, lancée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui est dégraissée en Europe pour vendre le beurre et la crème qui rapportent de l'argent, rengraissée avec de l'huile de palme et donc vendue 3 fois moins cher quasiment qu'un litre de lait local dans les pays dont nous parlons. C'est-à-dire, ça coûte combien un litre de lait frais ?
Lait local de Burkina, vous pouvez l'avoir selon les villes. Dans le milieu un peu rural, vous pouvez l'avoir à 600 francs CFA. Par contre, le litre de lait en milieu urbain peut aller de 800 à 1000 francs. 1100 francs, on peut arriver à 1100 francs. Par contre, la poudre de lait réengraissée qui est diluée peut varier de 180 francs à 300 francs CFA selon la composition chimique et reconstituée du lait.
Et alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là à avoir du lait en poudre dégraissé, rengraissé avec de l'huile de palme ?
Bon, nous comprenons que ce lait provient de la surproduction du lait en Europe, donc de la politique agricole commune européenne qui soutient la production laitière en Europe, mais qui n'a pas du tout veillé à réguler les quantités produites. Donc, il y a eu une surproduction de lait. Et maintenant, je pense qu'il fallait chercher des marchés où livrer ce produit. Donc, et nous avons ce produit appelé lait qui légitimement ne doit pas être appelé lait, qui est déversé sur nos pays. Donc alors, voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Moins cher et très accessible, donc qui inhibe la production locale. Donc les petits producteurs ne se retrouvent plus parce qu'ils sont fortement concurrencés.
Alors, vous êtes allé à la rencontre des nouveaux parlementaires européens qui ont été élus en mai dernier et qui vont voter donc pour définir les règles de la future politique agricole commune. Qu'est-ce que ça a donné ?
Bon, nous avons été satisfaits par la première réaction de ce suivi parce que en avril dernier, on a fait un premier plaidoyer en donnant ces informations sur le lait réengraissé et qui n'était pas vraiment très apprécié parce que ce n'était pas très connu. Mais avec ce deuxième suivi, la Commission de l'Union européenne a fortement affirmé la concurrence qui existe sur nos marchés. Donc, elle ne nie plus la concurrence faite par le produit réengraissé. Donc, ils affirment ça et ils le reconnaissent. Donc, l'Union européenne nous a confirmé que ce produit ne sera plus appelé lait, mais un code spécifique douanier qu'il appelle complément alimentaire à partir du lait.
Merci beaucoup Indatou Amadou de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane.
Je vous en prie, bonne journée.
Laurent Levard, est-ce que comme Indatou, vous avez bon espoir que la situation s'améliore ? Parce que ce qu'elle nous a décrit, c'est quand même catastrophique et incroyable. comme situation.
Oui, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que on est dans une région, donc la région de l'Afrique subsaharienne, où on sait bien les problèmes économiques et sociaux qu'il existe dans les régions rurales, la déstabilisation qui existe, et on voit à côté de ça une politique de l'Union européenne de dumping sur ces marchés qui ne peut qu'affaiblir la production locale et donc les populations qui vivent dans ces régions rurales. Donc il y a vraiment une incohérence énorme par rapport à ça.
Mais l'un des arguments, c'est de dire oui, mais ces pays ne peuvent pas répondre aux besoins de la population. Il y a besoin d'importation.
C'est vrai que, bon, si on prend l'exemple du lait, il y a un tiers de la consommation laitière en Afrique de l'Ouest qui dépend d'importations. Mais on ne peut pas raisonner uniquement à partir d'une photographie. La question, c'est de savoir, bon, d'ici 2050, la population ouest-africaine, elle va doubler. On peut penser que la consommation de lait, de produits laitiers, elle va doubler aussi. La question, c'est de savoir qui va alimenter cette population. Est-ce que cette croissance de la population et de la consommation, elle va servir de point d'appui pour un développement des régions rurales, de l'agriculture ou de l'élevage, ou bien est-ce que ça va servir les marchands de poudre importée en Afrique de l'Ouest?
Donc, et c'est là où ça manque de cohérence et avec si on les veut, politiques
si
de
on
développement.
Veut que les industriels laitiers en Afrique de l'Ouest soient véritablement intéressés pour favoriser des réseaux de collecte de lait auprès des éleveurs locaux et qu'ils appuient les éleveurs locaux justement à augmenter leur production, eh bien, il faut qu'ils aient intérêt à le faire. Et ce n'est pas avec ces rapports de prix qu'a exprimé Indatou qu'ils vont le faire.
Autre cas intéressant, celui du blé. Nous irons au Sénégal dans un instant, un pays où le pain est désormais sur toutes les tables et la politique agricole commune n'y est pas pour rien. Mais tout de suite, on s'installe. Profitez-en, vous êtes sur RFI. Vous écoutez C'est pas du vent avec Carlos Maria Fossati.
Heroica paisandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Tus glorias y tus triunfos esplendentes se cantan en tu tierra como aquí. Los bardos que tenemos en el Plata te dan en el Olimpo su canción. Dedican a este pueblo de valiente su más grande y sincera admiración. Dedican a este pueblo de valiente su más grande y sincera admiración. Hermanos en las luchas y en las glorias, lo mismo de que allá en Ituzaingó, son hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroica paisandú, yo te saludo, la Troya americana porque lo es, dedican a este pueblo de valiente y cuna de los bravos 33. Saludan este pueblo de valiente y cuna de los bravos 33 y cuna de los bravos 33 y cuna de los bravos 33.
Carlos Maria Fossati, saludo a paysanne dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous sommes très indépendantes car nous avons nos propres terres que nous cultivons comme nous le voulons. Les semences nous appartiennent et nous les utilisons saison après saison. Ainsi, nous faisons pousser tout ce dont nous avons besoin. Nous nous occupons de la cuisine, nous sommes responsables des semences, c'est nous qui prenons les décisions. Quant aux hommes, la seule chose qui les préoccupe, c'est de bien manger le soir.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous parlons de l'impact de la politique agricole commune sur les paysans des pays du Sud et notamment les paysans africains avec Laurent Levrard, expert agriculture au GRET et membre de Coordination Sud, co-auteur d'une étude intitulée PAC, quelle cohérence avec le développement des pays du Sud. Alors Laurent Levrard, on a vu le cas du lait. Dans votre rapport, vous dénoncez aussi le problème du blé importé d'Europe qui entre en concurrence avec d'autres céréales.
Oui, alors c'est notamment au niveau de la consommation. Donc il y a une concurrence avec des céréales locales, mais aussi avec d'autres produits comme des racines ou des tubercules qui ont aussi comme fonction alimentaire de fournir des calories dans la ration alimentaire. Donc par exemple avec le manioc. Hein. Et donc on observe qu'il y a dans les villes notamment une tendance à la substitution et peu à peu se créent des habitudes alimentaires les gens prennent l'habitude de consommer du pain fabriqué forcément avec du blé importé, hein, puisque l'Afrique de l'Ouest ne produit pas de blé.
Oui, donc on devait être en ligne avec Massignine qui est à Dakar et qui est chargée de la promotion des céréales locales à la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal. Malheureusement, la ligne ne fonctionne pas, donc c'est pas grave, nous l'entendrons une autre fois. Mais c'est vrai qu'au Sénégal, par exemple, le pain est entré dans la consommation des familles.
Oui, tout à fait. Dans beaucoup de villes ouest-africaines, le pain est rentré dans l'alimentation. Le problème, il est encore par rapport aux perspectives. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, avec l'accroissement démographique, l'accroissement de la consommation? Est-ce que ce surplus de population va s'alimenter de produits importés? C'est extrêmement dangereux pour l'Afrique de l'Ouest de se créer une dépendance de ce type-là, parce que on l'a bien vu quand il y a eu les flambées des prix mondiaux des produits agricoles en 2007-2008, les pays qui étaient devenus extrêmement dépendants pour leur approvisionnement alimentaire du marché mondial ont extrêmement souffert, et notamment les consommateurs les plus pauvres. Donc il y a véritablement un enjeu d'assurer, dans la mesure du possible, la plus grande indépendance alimentaire pour ces pays.
Oui, et en plus, c'est vrai que souvent, le pain produit par ce blé est d'une qualité alimentaire plus médiocre par rapport, par exemple, à des produits à base de manioc, de tubercules, de bananes plantains, qui pourraient être plus riches pour les populations. Donc il y a aussi des enjeux de sécurité alimentaire.
Oui, donc il y a effectivement l'aspect nutritionnel, et effectivement on trouve dans l'ensemble des céréales et des autres produits locaux une diversité nutritionnelle qu'on ne trouve pas dans le pain.
Alors il y a des initiatives qui essayent de montrer qu'on peut faire autrement. Il y a par exemple l'ONG française Sol qui, avec des partenaires sénégalais, a créé une initiative qui s'appelle Valoriser les céréales locales. C'est au Sénégal. En quoi ça consiste?
Oui, parfaitement. Donc c'est une expérience où ils fabriquent des produits, des galettes, des biscuits, en mélangeant avec la farine de blé avec des farines de céréales locales, voire même des produits, des biscuits qui sont uniquement à partir de céréales locales, et qui ils cherchent de cette façon à promouvoir des produits qui sont basés sur des produits locaux. Mais c'est compliqué parce que de toute façon la farine de blé est la plus compétitive, et on retrouve le même problème qu'avec celui du lait, c'est-à-dire que on a des exportations qui, parce que il y a des aides de la PAC, peuvent être finalement beaucoup plus compétitives que ce qu'elles seraient sans l'existence de ce type d'aide.
Alors du coup, quelles sont les solutions à court terme?
Alors moi, je pense que la solution, fondamentalement, ce serait... il y a d'abord une solution qui dépend des pays africains eux-mêmes. Ils pourraient protéger davantage leur marché. Bon.
Ça veut dire que les taxes à l'importation soient supérieures,
voilà,
plus que 5% comme pour le blé ou le lait.
Et d'ailleurs, il y a des tas de régions du monde dans lesquelles il y a des taux de protection beaucoup plus importants. Par exemple, tous les produits vivriers, la poudre de lait, le maïs, le riz, quand on voit la communauté de l'Afrique de l'Est, cette fois-ci, avec le Kenya, la Tanzanie, on a des droits de douane qui sont de l'ordre de 60%, donc qui sont beaucoup plus protecteurs. Donc ça, c'est une chose qui pourrait être faite de ce côté-là. Maintenant, du côté de l'Union européenne, qu'est-ce qui pourrait être fait très simplement? C'est de dire que il n'y a pas de problème pour exporter des produits, mais à ce moment-là, au moment de l'exportation, il y a une sorte de taxe à l'exportation qui correspond au montant des subventions qui ont été octroyées aux agriculteurs pour la production des mêmes produits et qui permet, je dirais, de compenser, d'annuler cet effet de dumping sur le marché mondial. On pourrait même aller plus loin et imaginer que cette taxe à l'exportation réalisée sur les produits exportés soit réallouée, par exemple, dans des actions de coopération avec les pays du Sud, les pays en développement, qui souhaiteraient développer leur filière locale. C'est-à-dire que ça permettrait d'abonder des actions de coopération pour des pays qui souhaitent développer leur filière locale et protéger leur marché agricole.
Oui, parce qu'en fait, pour répondre à la question qu'on a posée au début de l'émission sur la cohérence de la politique agricole commune par rapport aux politiques de développement, on voit bien que c'est contre-productif, en fait. L'une tire dans le pied de l'autre.
Ben bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut ajouter à ça que il y a d'autres types de politiques qui ont une responsabilité. Si on parle rien que de la PAC, par exemple, ça a été mentionné. S'il y avait un mécanisme à nouveau de maîtrise des productions, ceci éviterait de produire des excédents. Et puis il y a la politique commerciale. On a parlé, Indatou Amadou a parlé de cette question de poudre de lait mélangée avec de l'huile de palme. L'Union européenne a une responsabilité majeure par rapport à ça, parce que qui fait ces mélanges? Ce sont des industriels européens. Et quand on voit aujourd'hui dans quelles conditions est produite l'huile de palme, c'est-à-dire essentiellement sur la base d'une déforestation, et quand on voit tout ce que ça implique en termes de diversité, en termes de biodiversité, en termes de réchauffement climatique, on pourrait tout à fait considérer que l'Union européenne serait tout à fait légitime pour dire non, c'est fini les importations d'huile de palme. On interdit les importations d'huile de palme.
Alors on a bien compris la théorie, hein, on a bien compris qu'on marchait un peu sur la tête. Maintenant, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour changer ça? On sait que l'impact du consommateur peut avoir un rôle, hein, on le disait tout à l'heure pour la France, mais c'est valable aussi évidemment pour les pays africains, c'est-à-dire peut-être quand le porte-monnaie le permet, plutôt privilégier les produits locaux plutôt que les produits importés.
Alors, de la part des consommateurs européens ou est-africains?
Les deux.
Les deux, oui. Bon, écoutez, c'est clair que toutes les initiatives, je dirais, citoyennes et des consommateurs pour faire évoluer les modes de consommation sont des mesures extrêmement positives parce que je dirais que culturellement, ça prépare la société à une plus grande responsabilité quant au mode de consommation, quant au type de système alimentaire. Maintenant, voilà, le temps est compté. 2050, c'est-à-dire à la date à laquelle il faudrait atteindre la neutralité carbone, c'est après-demain. Donc, on ne pourra pas en rester à des initiatives volontaires des consommateurs les plus sensibilisés. C'est très bien, mais à un moment donné, les politiques doivent prendre leurs responsabilités.
Donc, on attend quoi? Les prochaines consultations du Parlement sur la politique agricole commune? On attend de voir ce qui va se tramer dans les mois qui viennent? Faut être vigilant?
Alors là, effectivement, on est dans un moment clé, puisque on a les débats sur la réforme, sur la nouvelle PAC, hein, qui va être mise en œuvre à partir de 2021. Et donc, c'est vraiment le moment de prendre que les parlementaires européens, qui sont maintenant appelés à se prononcer sur les propositions de la Commission européenne, c'est vraiment le moment que les parlementaires européens prennent leurs responsabilités. Et ça, je dirais que ça implique avant tout, en ce qui concerne la politique agricole commune elle-même, en finir avec ce type d'aide découplée, d'aide aveugle, qui finalement laisse le marché tout organisé pour aller vers un système d'aide, de subvention de la PAC, qui soit beaucoup plus focalisé vers une transition écologique de l'agriculture. Parce que qui dit transition écologique de l'agriculture, ça signifie à la fois une agriculture qui contribue moins au changement climatique, hein, aux émissions de gaz à effet de serre, et puis ça signifie aussi une agriculture qui peut-être va produire moins d'excédents, et c'est aussi une agriculture qui va pouvoir se passer des importations de soja en provenance de l'Amérique du Sud, qui là aussi sont véritablement une catastrophe du point de vue social et environnemental.
Et qui redonnera sa dignité peut-être aussi aux paysans et aux agriculteurs européens qui, comme on l'a entendu en début d'émission aujourd'hui, ne se sentent pas du tout en phase ni avec les citoyens de leur pays, ni avec la politique qui est menée.
Bien entendu, c'est-à-dire que cette transition vers une agriculture écologique qui cesserait d'avoir des impacts négatifs pour les agricultures des pays du Sud, elle serait également positive pour la société en général, pour les consommateurs, mais pour les agriculteurs eux-mêmes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont à la fois dans le mur, hein, comme l'a expliqué Nicolas Giraud, ils sont les premières victimes de toute l'utilisation des pesticides et des impacts de ça sur la santé humaine. Et en même temps, ils ont toute une partie de la société qui ne les reconnaissent pas ou qui les considèrent comme des pollueurs, etc. Donc effectivement, c'est aussi dans l'intérêt des agriculteurs de revenir vers une agriculture de qualité, écologique et qui finalement leur permette de vivre dignement de leur travail.
Merci beaucoup Laurent Levard d'être passé dans C'est pas du vent. Votre étude PAC, quelle cohérence avec le développement des pays du Sud, est à lire sur le site de Coordination Sud et vous trouverez le lien sur la page de l'émission C'est pas du vent. Merci beaucoup.
Merci bien.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Michel Doré.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département de géographie de l'Université des sciences humaines du Québec à Montréal. Et du 16 au 18 juin prochain, vous allez organiser un sommet international, désastre et résilience. De quoi s'agit-il ?
En fait, il s'agit d'une opportunité de transfert de connaissances pour habiliter les décideurs locaux à renforcer la résilience aux catastrophes.
Alors, ça veut dire quoi la résilience aux catastrophes?
En fait, peu importe où nous habitons sur cette planète, nous sommes exposés à des catastrophes, qu'elles soient d'origine technologique ou climatique, et parfois même sociale. On pense notamment aux migrations de population. Et ces défis interpellent tous les acteurs, du citoyen aux administrations locales, incluant les organisations étatiques. C'est pourquoi il y a lieu de se pencher, de réfléchir ensemble sur les opportunités d'amélioration de cette résilience, c'est-à-dire de cette capacité de faire face aux imprévus et d'assurer la sécurité, l'intégrité et le bien-être des populations affectées.
Donc, comme ça, pendant 3 jours, vous allez mettre ensemble des gens du monde scientifique, des artistes, des personnes de terrain qui interviennent aussi en urgence, et vous souhaitez des contributions du monde entier, notamment du continent africain. Alors, précisez vos attentes pour que nos auditeurs se rendent bien compte de ce que vous souhaitez recevoir.
Alors, les gens peuvent contribuer de différentes façons, que ce soit par l'animation d'une séance d'échange, que ce soit par la présentation d'un projet ou d'une réalisation en matière de résilience, que ce soit communautaire, gouvernemental ou institutionnel. Et on souhaite aussi la contribution d'artistes, parce qu'à travers les arts, il y a une lecture des situations de catastrophe et de résilience, mais il y a aussi à travers les arts un levier pour rejoindre les gens et engager, mobiliser la communauté afin de se rendre collectivement plus efficace et résilient.
Et si on souhaite participer, comment peut-on s'y prendre?
Il y a actuellement un appel à communication. Les gens n'ont qu'à se rendre sur le site internet www.dr2020.ca et pourront ainsi prendre connaissance de l'invitation à soumettre des propositions artistiques, scientifiques ou communautaires et ainsi participer à ce grand dialogue.
Merci beaucoup Michel Doré, donc dar2020.ca et évidemment nous mettrons toutes les coordonnées du sommet sur la page internet de C'est pas du vent sur le site de RFI. Merci Michel Doré.
Merci, au revoir.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.